Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Le tourisme de l'alcool moins cher n'est pas prêt de s'éteindre en Europe. Au gré des politiques fiscales et des taxes plus ou moins lourdes imposées sur les vins, bières et spiritueux, de petits Eldorados naissent et disparaissent aux frontières. Dernier exemple en date, la Lettonie. Les supermarchés spécialisés ont poussé comme des champignons depuis un an. Depuis que l'Estonie en fait a relevé ses prix. Le reportage de Marielle Vituro dans la ville lettonne de Valka, où se rendent désormais de très nombreux Estoniens et Finlandais.
Des magasins spécialisés dans la vente d'alcool, ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, c'est l'une des premières choses que l'on voit en arrivant à Valka, en Lettonie. La petite ville frontière est devenue en l'espace d'un an le nouvel Eldorado de l'alcool dans les pays baltes. En raison d'une hausse des taxes en Estonie et en Lituanie, le litre de vodka y est environ deux fois moins cher, le pack de bière aussi. Entre février et juillet 2017, les taxes sur la bière ont presque doublé en Estonie. On se déplace donc de loin pour venir à Valka. Ilimar a fait près de 100 km depuis Tartu en Estonie pour remplir ses frigos.
Je suis venu là pour l'alcool. C'est deux fois moins cher que chez moi en Estonie. Et puis si ta voiture ne consomme pas trop, ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant, j'ai pris de la bière et de la vodka. Je compte dépenser 100 euros.
100 euros.
Ritva, finlandaise, est en vacances dans les pays baltes. Dans son chariot, des canettes de bière et des cocktails.
Nous venons de Finlande. Nous sommes en voyage dans la région et nous avons profité de l'occasion pour venir faire un tour. La différence de prix est énorme. 3 à 4 fois moins cher que chez nous, je pense. Mais en fait, je n'achète jamais d'alcool en Finlande.
Depuis l'ouverture du magasin en juin, Mathis Bex, directeur de Superalco, l'un des plus grands magasins de Valka avec ses 900 mètres carrés, a déjà distribué plus de 5000 cartes de fidélité. Même si le magasin se situe en Lettonie, les produits les plus populaires sont de marque estonienne. La vodka Vergi et la bière Alecoq, servies en valisette de 24 canettes de 33 centilitres. Mais pour Mathis Bex, tout le monde a sa chance et certains savent bien tirer leur épingle du jeu.
Il faut savoir profiter de l'occasion. C'est un marché totalement nouveau qui s'ouvre. Les producteurs locaux peuvent vraiment espérer voir augmenter leurs ventes en jouant sur la carte des souvenirs à rapporter. Cézou, une brasserie locale, a elle aussi commencé à produire ses valisettes de bière spécialement pour des supermarchés comme le nôtre à la frontière. Les gens en achètent. Quand ils font des dégustations, les ventes sont multipliées par 3 le jour même.
Depuis l'installation de ces magasins, pour certains dans les anciens postes de frontières qui ne servent plus depuis l'adhésion à la zone Schengen, le grand gagnant est bien le budget letton. Jolanta Krastina, responsable au ministère des Finances en Lettonie.
Pour les 9 premiers mois de l'année, nous avons collecté 117 millions d'euros de taxes sur la vente des boissons alcoolisées. C'est 15,5 millions d'euros de plus que prévu. Et en fait, même si la consommation générale tend à diminuer en Lettonie, nos revenus devraient encore augmenter en 2018. Au vu de ces chiffres, on compte déjà sur une augmentation de 37 millions par rapport à ce qui était prévu.
Au ministère des Finances, on affirme que le surplus engrangé sera utilisé pour continuer de réduire les cotisations sociales ponctionnées sur les salaires. Comme le dicton l'affirme, le bonheur des uns fait le malheur des autres. L'Estonie et la Lituanie font grise mine. La presse estonienne rapporte que le quartier du port de Tallinn, qui avait misé sur ses magasins spécialisés dans l'alcool pour son développement, voit ses revenus fondre. En Lituanie, la situation est similaire. Marius Gombrevičius est l'actionnaire principal de Vinoteka. Il vend du vin en Lituanie et en Lettonie.
On ne va pas encore fermer notre magasin à Joniskis, mais en quelques mois, notre activité a été divisée par 10 à cause du magasin ouvert à Eleja, de l'autre côté de la frontière, en Lettonie. Dans cette petite ville, il n'y a que 2000 habitants, les recettes sont telles que ça veut dire que l'on vient des grandes villes du côté lituanien pour acheter.
Et lui, il y a 2000 habitants.
Davis Vitols dirige l'association de l'industrie de l'alcool en Lettonie. Pas question pour lui de bouder son plaisir.
J'ai vu dans les médias estoniens de nombreuses critiques face à l'alcool letton peu cher. Il y a 2 ans, ils avaient le même taux de taxation que nous allons avoir l'année prochaine. Je pense que c'est une bonne chose pour l'économie lettonne. On peut toujours dénoncer le tourisme de l'alcool, mais les gens n'achètent pas que des bouteilles. Ils font aussi le plein d'essence, ramènent du fromage, du jambon.
Même si la Lettonie prévoit de relever ses taxes à 92 euros par hectolitre de vin en mars 2018, l'Estonie va elle aussi augmenter ses tarifs. La différence restera donc importante et le commerce devrait continuer de fleurir. À Valka, 5000 habitants du côté letton, on espère que cela va encourager les investissements dans la région.
Dans leur pays, ces agriculteurs-là font figure de pionniers. On les regarde même parfois avec suspicion. Car si dans l'ouest de l'Europe, l'agriculture bio et les coopératives bio sont désormais une évidence, en Roumanie, le modèle de l'agriculture conventionnelle, intensive et subventionnée reste majoritaire. Quant aux coopératives, elles rappellent de trop mauvais souvenirs. Benjamin Pélican a rencontré l'un de ces paysans pas comme les autres.
C'est en se demandant un jour ce qu'il pourrait bien montrer de positif à ses élèves que Dan Chishmash, instituteur, a l'idée de faire de l'agriculture dans son village. Avec sa femme, Tikutsa et leurs 4 enfants, il se lance ainsi dans l'aventure de la terre. Il commence alors par travailler dans une ferme écologique créée par une fondation allemande. Puis Dan reprend l'endroit. À 50 ans, il possède désormais sa ferme dans le village de Tsopa, en plein cœur de la Transylvanie. Il y a des légumes, des plantes médicinales et des vaches.
On va derrière pour voir les vaches. Nous avons 15 vaches, elles ont une vie très active. Nos terres sont réparties un peu partout dans le village. On a un peu plus de 30 petites parcelles. C'est assez éparpillé, mais pour moi, ce n'est pas un problème. On diversifie ainsi notre production. Il y a des endroits où on a plus de 100 espèces différentes de plantes par mètre carré.
Pas facile d'impulser un changement dans les campagnes lorsque l'on veut faire une agriculture raisonnable. Dan est persuadé qu'une agriculture respectueuse de l'environnement est l'avenir en Roumanie. Et il se bouge pour ça. Il a notamment obtenu la certification bio et surtout fait partie d'une coopérative de vente, la Biocoop, située à Sibiu. Dan y vend son lait et son fromage. Une rareté en Roumanie où le fait de s'associer en agriculture rappelle aux gens la période communiste.
On a commencé par la vente. La seule condition était de produire en bio. Mais nous avons aussi au village une autre forme de coopération, une association locale dans laquelle les autres ne font pas forcément du bio, mais avec laquelle nous gérons tous ensemble nos pâturages. On a notamment un appareil pour couper les mauvaises herbes que l'on utilise en commun, car il peut y avoir différentes formes de coopération. Malheureusement, depuis la période communiste, on a longtemps refusé de penser par soi-même et pour la communauté. On attendait tout le temps que quelque chose vienne de l'extérieur, d'en haut du parti.
Preuve que ce désir de s'associer autour d'une agriculture plus propre n'est qu'embryonnaire en Roumanie, la Biocoop est située à 100 km de la ferme de Dan. Ses producteurs sont ainsi très éloignés les uns des autres. Ce type de coopération est une bizarrerie dans le paysage agricole. Basée à Cluj, Eco-Ruralis est une association qui se bat pour les droits des paysans et défend une agriculture écologique. Elle rassemble plus de 6000 membres qu'elle aide pour l'accès à la terre, aux semences et au marché. Elle contribue aussi à dépasser cette peur de faire ensemble encore bien présente.
On retrouve cette peur de s'associer au sein même des familles de paysans. Du genre, si cela ne se passe pas bien, la relation en prendra un coup, etc. Du coup, seules de petites unités de production individuelle se sont formées. Des fermes paysannes qui font de la polyculture à petite échelle. Il y a bien des coopératives de production familiale en Roumanie, mais elles ne sont pas écologiques et il n'y en a qu'une dizaine dans tout le pays. Elles sont surtout ultra spécialisées. Par exemple, la coopérative de la rivière Sommetch, près de Cluj, est spécialisée dans le chou.
Au-delà du concept de coopérative ou de label comme le bio, pour Attila, ce sont les notions de proximité et de confiance entre consommateurs et paysans qui doivent se renforcer. C'est ce qu'essaye d'encourager Eco-Ruralis.
Il y a différentes formes de coopération qui naissent chez Eco-Ruralis, mais pas dans la ligne des modèles standardisés soutenus par l'État. C'est le cas de la boîte du paysan. C'est une initiative dans laquelle chaque producteur a ses clients dédiés. Par exemple, la famille de Levent Hoidou, qui vit à côté de Motiu, fournit des aliments à 80 familles. Pas besoin de posséder de quelconque certification, puisqu'il est juste question de contact direct avec le consommateur et du respect de celui-ci en produisant une nourriture saine.
Sans rôle officiel dans l'agriculture, la plupart des 4 millions de paysans que compte le pays ne disposent pas de statut légal. Exclus du système, ils sont donc assimilés à des chômeurs, sans retraite ou assurance médicale. De l'autre côté de la balance, une poignée de sociétés d'exploitation qui accaparent de plus en plus le marché, les terres ainsi que les aides de l'État et de l'Europe. Et les choses ne sont pas prêtes de changer. Le mois dernier, dans une sortie remarquée, un sénateur a rappelé que l'État avait besoin de faire la chasse à ses privilégiés qui ne payaient pas leurs impôts sur ce qu'ils vendaient.
Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
Une communauté autonome comme la Catalogne déclare son indépendance et prenne la forme d'une république, cela ne s'était jamais vu en Europe occidentale. Un coup d'éclat qui a entraîné la destitution du président Puigdemont et de son gouvernement, la dissolution du parlement régional, la menace de poursuites judiciaires et la tenue de nouvelles élections régionales le 21 décembre. Alors, est-ce que c'est la nature de la nation espagnole qui permet de comprendre ces événements? Est-elle différente des autres nations européennes? Comment finalement se sont constituées ces nations? Avec Daniel Vigneron du site myeurope.info, nous faisons une petite plongée dans l'histoire de l'Europe. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors, on commence par la Catalogne. Est-ce que le désir d'indépendance de cette région est nouveau?
La Catalogne a déjà proclamé son indépendance 3 fois, dans le cadre ou dans la perspective d'une république espagnole, en 1869, 1931 et 1934. Et une première fois, dès 1641, en réclamant l'aide du roi de France Louis XIII. Résultat, si l'on peut dire, 18 ans plus tard, Louis XIV annexait le Roussillon et la Cerdagne, partie nord de la Catalogne. Ces diverses proclamations n'ont jamais abouti, mais en 1931, la Catalogne a quand même obtenu une certaine autonomie.
La région a-t-elle une place spéciale dans la nation espagnole ?
On ne peut pas le dire. En 1137, le comte de Barcelone épouse la princesse héritière d'Aragon, la région voisine, ce qui donne naissance à la couronne d'Aragon. Celle-ci réalisera en 1479 une union dynastique avec la couronne de Castille, prémisse de la nation espagnole. Mais, notons-le, pendant plus de 2 siècles encore, les couronnes resteront séparées, les rois espagnols s'intitulant roi de Castille et d'Aragon ou roi des Espagnes. Malgré l'unification de 1717 sous les lois de Castille, cette appellation plurielle restera d'usage fréquent jusqu'au milieu du 19e siècle. Bref, l'Espagne, hormis la parenthèse du franquisme, est une nation de tradition peu unitaire.
Rien à voir donc, Daniel, avec les nations unitaires comme la France ou le Royaume-Uni.
Toutes les nations d'Europe se sont constituées en agrégeant progressivement des féodalités, des villes libres, des principautés, des royaumes. Mais il est vrai que les plus anciennes nations, celles qui sont apparues il y a 1000 ans ou plus, sont également celles qui, à l'époque moderne, forment les États les plus unitaires.
On pense bien sûr à la France, Daniel.
Alors il est toujours délicat de dater la naissance d'une nation. Pour la France, certains remontent à l'an 481, date du couronnement de Clovis en tant que roi des Francs. Mais pendant des siècles, ce royaume s'est désintégré, reformé, dispersé de nouveau jusqu'en 843, où Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale de l'Empire de Charlemagne. Le premier roi capétien, Hugues Capet, est toujours roi des Francs. Et il faut attendre 1204 et Philippe Auguste pour voir apparaître la dénomination latine de Rex Franciae, roi de France. Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que la France commence un peu à ressembler territorialement à ce qu'elle est. C'est moins tardif pour l'Angleterre.
L'Angleterre est un pays également très ancien.
Oui, car un roi des Anglais apparaît dès le 8e siècle. En 1016, Knut le Grand est le premier à régner sur presque toute l'actuelle Angleterre. Mais il faut attendre l'union avec l'Écosse en 1707 pour voir se former le royaume de Grande-Bretagne, et ce n'est qu'en 1801 que se constitue le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Pour en venir à lui, Knut le Grand est aussi roi de Danemark, pays unifié avant l'an 1000, tout comme la Suède.
Alors parlez-nous maintenant de ces nations tardives.
Tardives en termes d'unification au sein d'un même État. Les vastes contrées de langue allemande ont ainsi formé, depuis le haut Moyen-Âge, des ensembles de type confédéral, en particulier le Saint-Empire romain germanique, formé en l'an 962, en continuation à la fois de l'Empire carolingien et de l'Empire romain. À sa tête, un empereur élu par une diète d'empire composée de princes électeurs souverains dans leurs États. À partir du 15e siècle, l'empereur, qui continue à être élu, sera toujours issu de la famille des Habsbourg, installant la primauté de Vienne sur l'ensemble. C'est l'émergence d'un État des bords de la Baltique, la Prusse, qui finira par avoir raison du Saint-Empire, formellement aboli en 1806 sous la pression de Napoléon. La Prusse, qui de 1815 à 1866, rivalise finalement victorieusement avec l'Autriche au sein de la Confédération germanique et dont le roi proclamera en 1871 à Versailles l'Empire allemand. Cette agglomération de 26 États fédérés sous domination prussienne marque l'avènement de l'Allemagne moderne.
Il faut enfin parler de l'Italie, Daniel.
Odoacre, le dernier empereur romain, s'est proclamé en l'an 476 roi d'Italie. Et pendant près de 1000 ans, de 962 à 1803, on a parlé du royaume germanique d'Italie placé sous domination du Saint-Empire, puisque les princes souverains de la péninsule versent un tribut à l'empereur. Il y a encore le royaume d'Italie, dirigé par Napoléon Ier, mais l'Italie moderne ne s'est formée grâce à l'aide militaire des Français que de 1860 à 1870 et a connu pour capitale Turin, puis Florence et enfin Rome en 1871 après la prise de la ville éternelle un an plus tôt et la chute des États pontificaux. Une ultime conquête faite cette fois malgré l'opposition de la France.
Merci Daniel Vigneron. Toutes ces informations et rétrospectives à retrouver sur votre site myeurope.info.
À bientôt Laurent.
Au Royaume-Uni, c'est déjà Noël pour tous les chiens. Depuis une dizaine de jours, une nouvelle chaîne, Christmas TV, consacrée uniquement à cette fête, diffuse un programme totalement novateur, Merry Woofmas, Marie Billon.
It's Christmas morning, I'm sitting at home. Holly the doggy is after a bone.
C'est l'histoire d'une petite chienne nommée Holly qui ne veut qu'une seule chose pour Noël, un gros nonos. Mais ses amis, les toutous, ne lui offrent que des cadeaux dont elle n'a pas envie, jusqu'à ce que finalement, ils lui remettent un paquet plein d'os. Holly se rend alors compte qu'elle a de la chance, non pas d'avoir tous ses nonos, mais bien d'avoir de si bons amis. Avec une morale pareille, Merry Woofmas pourrait facilement être un dessin animé pour enfants, mais non, c'est un film pour nos amis les chiens. Et pas uniquement parce qu'ils en sont les acteurs, le très court-métrage de moins de 4 minutes a été écrit et réalisé avec l'aide d'un spécialiste du comportement canin et d'un vétérinaire. Les chiens voient le monde en deux couleurs principales, jaune et bleu. Le sapin de Noël est donc d'un jaune étincelant, tandis que la plupart des paquets cadeaux sont bleus. Les séquences sont courtes et dynamiques pour conserver l'attention limitée d'un chien, et si jamais ils pensent à autre chose, les sons les rappellent à l'ordre. Les emballages déchirés par Holly font plus de bruit que la normale.
A wonderful gift for a doggy to chew. A wonderful thing for a good girl.
Le narrateur emploie aussi des mots que les chiens anglophones ont l'habitude d'entendre tout en variant le ton pour éviter la monotonie et surtout utiliser les intonations de leur maître. Si l'histoire intéresse les humains et que le manque de rouge et de vert dans un film de Noël ne traumatise pas la famille, tout le monde peut regarder et apprécier ce petit opus. Son but est de stimuler les chiens et de les mettre de bonne humeur, mais ça peut aussi fonctionner sur les hommes. D'ailleurs, les chiens acteurs sont des stars des réseaux sociaux. Ils se sont fait connaître grâce à leur compte Instagram ou Twitter, à moins que ce ne soit l'œuvre de leur maître.
C'est Ludivine Amado qui a réalisé et mis en onde dans la bonne humeur cette édition d'Accent d'Europe, à retrouver demain dès 12h41.